Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes avec les neveux de René, Chemin de pensée. Et nous continuons à cheminer avec le Gorgias de Platon. Alors, vous êtes avec Nazim Fates et Anne Bonneau nous fait le plaisir d'être de nouveau parmi nous. Vous êtes avec Sylvain Contasso-Vivier et avec Nicolas Lemoine. Alors, Nicolas, est-ce que tu pourrais, comme de coutume, nous faire un résumé de l'épisode précédent? Et ce résumé sera bref, puisqu'après on donnera la parole à une autre personne par le biais d'un enregistrement.
Alors, nous avons abordé un discours de Platon intitulé le Gorgias, et nous avons commencé par un texte qui se situe à peu près à la moitié du dialogue, où nous avons découvert que pour Socrate, la politique, c'était le soin de l'âme. Et donc, chose qui n'a pas manqué de nous étonner, puisqu'une âme, c'est quelque chose qu'on peut concevoir comme individuel, alors que la politique, c'est lié à la vie de la cité et donc lié à quelque chose de collectif. Et face donc à cet art politique, sur la place publique, que trouve-t-on? On trouve des rhéteurs, c'est-à-dire des gens qui sont spécialistes dans l'art de convaincre, et de convaincre soit en bien, par exemple convaincre un malade de prendre une potion que le médecin lui a prescrit, mais qui peut être aussi utilisé en mal, sans qu'on se pose la question de la vérité, puisque pour Socrate, le rhéteur, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'objet de son discours. Et donc, nous allons poursuivre.
Donc, le nœud du problème sur lequel on s'était arrêté, c'est que le rhéteur a un pouvoir immense, puisque c'est lui qui va décider, par exemple, de deux partis politiques, de deux personnes, qui va l'emporter par les bons discours. Alors, on entend toujours aujourd'hui rhéteur dans le sens courant, mais au XXIe siècle, il faut penser rhétorique, pas seulement en termes politiques, au sens les partis politiques, mais aussi ce qui nous fait acheter tel ou tel produit, ou ce qui nous fait adhérer à tel mode de vie, ou ce qui nous fait dire, même sur le point de vue culturel, par exemple, il y a de la manipulation des foules. Par exemple, dans une exposition, on vous dit « ne manquez surtout pas tel grand peintre ou tel grand artiste ». Souvent, je sais pas moi, au Louvre, on peut voir toutes sortes de grands artistes. Et puis, quand il y a l'exposition machin, tout le monde se précipite, alors que les œuvres en question sont là. Moi-même, récemment, en ce moment, au Louvre, il y a une exposition sur un sculpteur qui s'appelle Bouchardon. Les œuvres de Bouchardon, pour certaines, sont au Louvre. Ben, j'avoue que je n'avais jamais prêté attention à ça avant qu'on me mettre le nez dessus, praxitèle et ainsi de suite. Donc on en est tous victimes. Il faut penser que victime, c'est pas le bon terme, mais nous sommes tous sous l'emprise d'une certaine forme de rhétorique, et donc il faut entendre le mot rhétorique tel que l'emploie Socrate comme tout ce qui touche à la manipulation de la foule, du grand nombre, et ainsi de suite.
La communication. Et
voilà, la communication, ce qu'on appelle aujourd'hui tech de com, technique de communication. C'est ça qu'il faut traduire par le mot rhétorique. Merci Nicolas. Alors, avant d'aller plus dans le dialogue du Gorgias, je propose à nos auditeurs d'écouter une petite interview d'un ami que j'ai rencontré à la gare de l'Est, qui s'appelle Tonatiuh Uzeche Sandoval, qui est colombien et qui a fait sa thèse sur Auguste Comte et qui a écouté les premières émissions que nous avons faites sur Socrate et sur l'apologie de Socrate, et qui voulait nous faire un lien entre ce que nous avons dit, et il voulait attirer notre attention sur le fait que nous n'avons pas été peut-être assez posés sur certains points, et peut-être aussi ça va nous permettre aux auditeurs de se resituer dans le contexte de ces premières émissions que nous avions consacrées à l'apologie de Socrate.
J'ai fait un doctorat en philosophie sur Auguste Comte, sur l'idée d'Occident, et c'est en m'intéressant à l'idée d'Occident que je suis venu à travailler sur le livre d'un philosophe tchèque qui s'appelle Jean Patočka, qui s'appelle justement Platon et l'Europe. Et dans ce texte, Patočka, qui était un disciple de Husserl, un lecteur de Masaryk et par l'intermédiaire des Masaryk, un lecteur de Comte, Patočka affirme ceci, il affirme que c'est le soin de l'âme qui a fondé l'Europe. C'est ça sa thèse. Et le soin de l'âme, il étudie d'abord chez Platon.
Par rapport aux émissions que vous avez entendues, les neveux de René, vous sembliez dire que nous-mêmes avions été peut-être un peu trop rapidement sur la question de l'âme et sur la question du soin de l'âme, et qu'il fallait sans doute y accorder plus d'attention dans la démarche de Socrate.
Effectivement, il me semble que il faut se poser dans le texte grec. Il faut regarder qu'est-ce qui est dit à propos du soin, que veut dire soigner dans cette acception, et surtout qu'entendre par âme, c'est-à-dire est-ce que c'est le sens purement désincarné de l'âme comme opposée au corps. Il faut savoir que l'âme chez les Grecs n'est pas seulement ça se dit psouké, mais il ne s'agit pas de faire une psychologie de l'âme. Le soin de l'âme n'est pas une psychotechnie. La psouké, comme dit Aristote, c'est toutes les choses à la fois. Et Aristote, en disant cela, il veut dire que l'âme, c'est l'ouverture à ce qui est. Et cette façon de concevoir l'âme comme ouverture à ce qui est, elle est déroutante. Et il me semble que c'est... Il faudrait quand même se poser pour voir davantage ce que les Grecs entendent par âme et par soin de l'âme.
Alors si on s'en tient au texte de Platon, quels sont les conseils que vous nous donneriez par rapport à lire Platon, puisque bon, son œuvre est considérable. La plupart des gens qui ne sont pas familiers avec la philosophie disent mais par où entrer dans Platon. Donc avec l'émission, on a commencé à traiter de l'apologie de Socrate. Quelles sont selon vous les parties du texte que vous nous conseilleriez de lire en priorité, et aussi peut-être comment les lire?
Je pense que le plus étonnant, c'est que vous l'avez déjà fait. C'est-à-dire, vous avez parlé à la République. Or, la République, elle est construite de cette sorte. Essayons de savoir ce que c'est une cité juste. Mais pour savoir ce que c'est une cité juste, il faut savoir ce que c'est une âme juste. C'est ça la démarche. Et dans cette démarche, il y a déjà toute l'idée que c'est en prenant soin de l'âme des citoyens que l'on peut soigner une cité. Donc en fait, vous l'avez déjà fait. Mais je vous invite à vous poser et à voir ce qu'il y a de fondateur dans ce geste, puisque la thèse de Patočka est la suivante: c'est par le soin de l'âme que est possible une autorité spirituelle et une autorité morale. Et c'est là que j'en reviens à Comte, puisque Patočka dit: Comte a renouvelé l'idée platonicienne d'autorité spirituelle et par conséquent de soin de l'âme.
Alors, vous parliez d'Auguste Comte. Auguste Comte, c'est un scientifique de formation. Hein, ensuite, il s'intéresse à la philosophie et il va proposer un modèle politique de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots, mais j'espère que dans l'émission on y reviendra, en quoi consiste ce modèle politique et peut-être en quoi Platon a inspiré Auguste Comte?
Alors ici, on est dans une difficulté, à savoir que Comte, il ne se revendique nullement de Platon. Il reprend effectivement l'idée d'autorité spirituelle sans savoir qu'il a une dette à l'égard de Platon. Et cette idée d'autorité spirituelle, elle est fondamentale pour Comte, puisque pour Comte, l'Europe n'existe que comme une réalité spirituelle, c'est-à-dire ce qui fait que l'Europe occidentale, la République occidentale, c'est l'expression de Comte. Ce qui fait la République occidentale, c'est le fait d'avoir une histoire commune, et c'est cette unité de son histoire, une unité aussi qui lui vient d'une langue commune basée sur le grec et le latin, eh bien, qui ont fait une entité à part entière, et une entité aussi qui se répand, puisque l'Occident pour Comte ne se limite pas à l'Europe, il est aussi en Amérique latine, il est aussi dans ce qu'il appelle l'Amérique septentrionale. Et il se trouve aussi en Inde et ailleurs. Donc l'Occident n'est pas justement une réalité géographique, mais, comme il le dit, une réalité historique et spirituelle.
Merci beaucoup, Tonatius et Chez Sandoval. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Juste encourager les lecteurs à suivre ce travail patient, encourager les neveux de Ramon, les neveux de René, pardon, et je confonds avec l'œuvre de Diderot, à faire ce travail patient qui nous aide à respirer.
Voilà, je m'excuse auprès des auditrices et des auditeurs de la mauvaise qualité de cet enregistrement, mais ça a été fait entre deux trains à la gare de l'Est avec un téléphone portable. Voilà, donc il fallait pas manquer cette occasion de discuter, de recueillir la parole de Tonatiuh Uzeche Sandoval, qui a fait sa thèse sur Auguste Comte, un philosophe dont on parlera plus tard dans Les Neveux de René. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui et moi sommes tous les deux nés hors de l'Europe. Moi, je suis en Algérie, Tonatiuh est né en Colombie. Et si on s'interroge sur les fondations philosophiques de l'Europe, c'est aussi parce que celles-ci, avec l'idée d'Occident, deviennent prégnantes partout dans le monde. Notamment, par exemple, l'idée de démocratie pose question, et il y a la question de savoir si la démocratie doit être la forme qui s'impose partout dans le monde. Alors, on va pas prétendre ici y répondre, mais simplement, je voudrais attirer notre attention à tous sur le fait que réfléchir sur le Gorgias, c'est aussi réfléchir sur les problèmes politiques actuels.
RCF, premier réseau de radio chrétienne en France.
Alors, peut-être on va se replonger dans ce dialogue. Et nous avions dit qu'il y avait cette question du rapport de la quête de la vérité. Et la thèse qui est émise par Socrate, c'est que la rhétorique parvient à persuader les personnes qui en sont les victimes, entre guillemets, mais sans rien connaître de l'objet dont elle est en train de débattre. Ce ne sont que des choses qui ont trait à l'apparence et non à l'être. Alors nous allons lire un passage où ces traits-là apparaissent. Anne, tu vas lire quel personnage ?
Socrate.
Socrate. Et Sylvain ?
Ben, Gorgias.
Gorgias.
Bon, à ton avis, savoir et croire, est-ce pareil ? Est-ce que savoir et croyance sont la même chose ? Ou bien deux choses différentes ?
Pour ma part, Socrate, je crois qu'elles sont différentes.
Et tu as bien raison de le croire. Voici comment on s'en rend compte. Si on te demandait, y a-t-il, Gorgias, une croyance fausse et une vraie ? Tu répondrais que oui, je pense.
Oui.
Mais y a-t-il un savoir faux et un vrai ?
Aucunement.
Savoir et croyance ne sont donc pas la même chose, c'est évident.
Ah, tu dis vrai.
Pourtant, il est vrai que ceux qui savent sont convaincus et que ceux qui croient le sont aussi.
Oui, c'est comme cela.
Dans ce cas, veux-tu que nous posions qu'il existe deux formes de conviction ? L'une qui permet de croire sans savoir et l'autre qui fait connaître.
Oui, tout à fait.
Alors, de ces deux formes de conviction, quelle est celle que la rhétorique exerce dans les tribunaux ou sur toute autre assemblée lorsqu'elle parle de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas ? Est-ce la conviction qui permet de croire sans savoir ? Ou est-ce la conviction propre à la connaissance ?
Il est bien évident, Socrate, que c'est une conviction qui tient à la croyance.
La rhétorique est donc, semble-t-il, productrice de convictions. Elle fait croire que le juste et l'injuste sont ceci et cela, mais elle ne les fait pas connaître.
En effet.
Alors, la question qui est posée, donc, c'est une question éminemment philosophique. Hein. On voit ici que la philosophie, elle se définit pas par quelque chose de vague, tendance New Age, le bien-être, etc. Ici, la philosophie, c'est faire le départ entre ce qui est juste et injuste, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, ce qui est fondé en raison, comme on dira plus tard, sur ce que les Grecs appellent le logos, donc quelque chose qui est raisonné, et ce qui n'est que de l'ordre de la conviction. Est-ce que ça vous donne envie de réagir, de commenter ce passage ?
Ah oui, d'abord, la première réaction que j'aurai, c'est que nous avons un premier exemple d'un dialogue socratique.
Hein, ah oui, il était temps.
Il était temps, oui, parce que l'apologie de Socrate, c'est un long monologue.
Oui.
Là, ici, on a en quelque sorte en œuvre la méthode socratique pour distinguer le vrai du faux. Et cette méthode, elle passe justement par le langage, donc c'est le dialogue, dia qui veut dire par l'intermédiaire de, et logos donc le langage.
Logos, la parole.
La parole, oui.
La parole.
Et donc c'est par ce moyen, par un échange de vues rigoureux, qu'on peut démêler le vrai du faux. Les croyants, justement, sont mis à l'épreuve par un questionnement
systématique, en têtant,
voilà. Oui. Et jusqu'à ce qu'apparaissent d'éventuelles contradictions.
Alors, est-ce que ici vous pouvez donner des exemples de contradictions qui seront mises à jour par Socrate? C'est-à-dire, juste une question. Quand Gorgias dira à Socrate, mais mon pauvre ami, moi, même la personne qui n'a pas envie de prendre sa potion qui va lui faire du bien, moi je me fais fort de la lui faire prendre. Finalement, si on dit ça dans le langage de tous les jours, la personne va dire bon, bah, c'est super. Mais Socrate ne se contente pas de cette réponse. Et c'est en ça qu'il est, à juste titre, appelé philosophe, c'est qu'il cherche à aller plus loin.
Bien sûr.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples où celui-là, dans le dialogue, comment il va faire finalement, Socrate, pour mettre les gens face à leurs propres contradictions?
Bien, là, l'étape de ce dialogue, il fait dire à Gorgias que son procédé, puisque c'est le terme qu'il va lui donner.
Alors, oui, on y reviendra. Hein. Donc, techné est opposé à impéria, quelque chose qu'on traduit par procédé. Mais toi, Nicolas, dans ta traduction qui est celle de Garnier Flammarion, procédé, c'était pas procédé qui était rendu, c'était...
Non, c'était savoir-faire.
Savoir-faire. Et on avait dit que savoir-faire, c'était un peu casse-gueule. Voilà. Je veux pas vraiment censurer, mais c'est intéressant aussi pour les auditeurs de voir que selon la traduction qu'ils se procureront, un même terme est rendu soit par procédé, soit par savoir-faire. Et c'est difficile d'y voir clair, parce que pour nous, savoir-faire peut avoir quelque chose de bon. Mais là, c'est bien d'avoir un savoir-faire. Et donc, traduire les mots grecs par savoir-faire, oui, c'est peut-être pas une bonne traduction. D'où le mot procédé qui est peut-être meilleur.
Que j'utilisais scrupuleusement.
Voilà,
donc,
bon
le
élève.
Résultat de ces quelques échanges que nous avons entendus, c'est que le procédé donc de Gorgias ne produit pas de la connaissance, mais uniquement de la conviction, de la croyance. Et ce qui, évidemment, discrédite quelque peu l'art de Gorgias. Enfin, le procédé. Oui.
Et la question qui nous est posée juste, je voudrais qu'on revienne ensemble à la question qui nous est posée par Tonatiu Uzeche Sandoval sur la question du soin. Et la question de qu'est-ce que c'est qu'une cité juste? Est-ce que vous, les uns et les autres, vous pouvez dire peut-être votre sentiment intime, est-ce que vous adhérez à cette idée que pour construire une cité juste, il faut d'abord savoir ce qu'est qu'une âme juste? Et à nous autres qui sommes habitants du 21e siècle, comment allons-nous expliquer ce mot d'âme à des personnes qui, pour la plupart, ne croient pas qu'il y a une âme? Et le mot âme est aujourd'hui dénigré, méprisé. En tout cas, aucun homme politique ne dirait que pour fonder une cité juste, il faut avoir une âme juste, je pense.
Difficile, oui.
Moi, je réagirais, mais peut-être de manière un peu négative. C'est-à-dire que à la toute fin du Gorgias, Socrate, prend un exemple et il dit « Mais vous serez jugé, vous viendrez nu, votre âme sera nue et vous serez jugé pour ce qu'est votre âme. » Et dit « C'est pour ça que vous devez être juste, c'est parce que vous serez jugé. » Et alors je me dis, ça c'est un discours qu'il va tenir aux croyants, mais quel est le discours, quel est l'argument qu'il va tenir à ceux qui ne croient pas?
Alors, c'est intéressant, parce que, justement, ça nous amène sur quelque chose d'assez délicat, et je pense que nous ne sommes pas des professionnels de la philosophie, donc nous ne pourrons pas être parfaitement précis, mais nous pouvons simplement poser des questions que les auditeurs peuvent creuser par eux-mêmes. Cette dichotomie croyant-pas croyant, elle peut être questionnée de maintes façons. Déjà, la façon dont les Grecs, on l'a déjà dit, croient à leur Dieu, n'est pas la même que celle qui va suivre avec le monothéisme. Donc c'est autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dis, Anne, c'est que le Gorgias se termine sur un mythe.
Oui.
Mais il y a dans l'idée du mythe quelque chose qu'on va... C'est un récit. Donc mutomai, c'est récit, c'est quelque chose... Donc il ne s'agit pas de la description de véritablement quelque chose qui va arriver en tant que tel, comme une description précise.
Effectivement, néanmoins, il dit « je le tiens pour vrai
». Oui, il le tient pour vrai, ça veut dire, bon, libre à toi de ne pas y croire, mais à toi qui a été sceptique en tout, qui a rejeté tous mes arguments, eh bien je n'ai plus que ça à te proposer.
C'est ça.
Finalement, c'est ça. Et donc, ça nous met face à notre propre contradiction, de nous dire, nous, à quoi, c'est la question que posait Tonatiuh Jesse Sandoval, sur quoi peut-on créer une autorité spirituelle? Si à chaque fois qu'on entend spirituel, on jette tout à la poubelle, qu'est-ce qui nous reste pour être ensemble, finalement? Et c'est peut-être la situation délicate dans laquelle on se trouve aujourd'hui.
Exactement ça.
Bah, en fait, par rapport justement au texte du Gorgias, ce dont on parle actuellement, c'est quelque chose qui est pas mal développé dans la dernière partie, en fait, hein, dans la troisième partie, puisqu'en fait, le dialogue se compose de trois parties, on va dire. Il y a trois interlocuteurs, en fait, pour Socrate. Donc le premier, bien sûr, c'est Gorgias, avec qui il discute de la rhétorique, ce qu'est la rhétorique, et donc on en a déjà parlé précédemment. Après, il va discuter avec Polos sur justement la distinction entre la technique et le procédé. Et on a une troisième partie donc qui se fait avec Calliclès. Et là, on arrive justement sur les règles de vie quelque part. Et qu'est-ce que c'est qu'avoir une, entre guillemets, une bonne vie, mener une bonne vie? Et donc, il va y avoir toute cette discussion sur ça. Et au final, c'est là qu'on rejoint cette idée de soin de l'âme.
RCF. La joie se partage.
Anne, donc tu disais finalement que ça c'est surprenant parce qu'on a l'impression que la philosophie c'est uniquement quelque chose qui a trait à la raison et on découvre avec surprise que le Gorgias se termine sur un mythe,
oui.
C'est ça. Et donc est-ce que ça veut dire que pour autant, les êtres humains ne sont pas capables d'entendre, hein, je dis bien d'entendre, pas de croire, simplement d'entendre ces mythes, on va être dépourvu.
Eh bien, on espère que non, justement, mais c'est toute la question.
C'est toute la question.
Oui.
Mais toi-même, Anne, je pense que sans avoir de proximité, affective par rapport à ce mythe, je vais le dire comme ça, tu as néanmoins été extrêmement touchée par la lecture du Gorgias.
Oui,
ou
énormément. Mais bon, le Gorgias est un livre d'une richesse infinie.
Oui.
Et je ne sais pas si on pourra aussi se passer de dire que il est très poignant parce que Socrate sait qu'il va mourir, il pense qu'il va mourir, et donc il continue quand même ses attaques et continue quand même à vivre sa philosophie malgré tout.
Mais précisément, s'il le fait, si même la peur de la mort ne l'ébranle pas dans cette certitude qu'il a, qu'il faut qu'il prenne soin de son âme, n'est-ce pas parce qu'il y a une forme de relation à la divinité, à quelque chose justement qui vise la vérité, quelque chose qui est éternel derrière. Et si on n'a plus ça, qu'est-ce qui nous reste? C'est ça la question que je voudrais poser.
Bah, effectivement, quelque part, je pense que dans l'esprit de Socrate et de Platon, on peut considérer que finalement... c'est l'être qui va définir ce que l'on fait, en fait. Et le propre de l'humain, c'est d'être ça, en fait, d'être... Enfin, c'est cette âme, en fait, hein, qui le définit. Et c'est cette ouverture à ce qui est. Donc, la recherche de la connaissance, en fait. Hein, c'est de développer la connaissance, d'enrichir cette connaissance. Et au final, c'est ce qui différencie l'humain de toutes les autres choses qui sont. Donc, quelque part, bien remplir sa vie, c'est réaliser ce pourquoi, entre guillemets, on est fait. Et on pourrait imaginer, imaginer n'est pas le bon terme d'ailleurs là, mais on pourrait voir vraiment l'idée de Socrate sur cet aspect-là, en fait.
Et puis, je pense qu'il y a d'autres conséquences qui sont les conséquences sociales. C'est-à-dire que le plan même du Gorgias est la démonstration, non pas de l'échec de la philosophie de Socrate, mais de l'échec même de la cité. Il y a trois mouvements, comme a dit Sylvain. D'abord, un dialogue principalement avec Gorgias, ensuite avec Polos, et enfin avec Calliclès. Gorgias, c'est le rhéteur, mais qui n'est pas seulement rhéteur, puisqu'il a quand même une idée morale, et c'est là-dessus que Socrate va le coincer.
Oui.
Et c'est quelqu'un qui, notamment, accepte la discipline du dialogue, de cet échange de vues qui conduit à faire émerger la vérité. Polos, lui, ne sait pas dialoguer. Et la preuve qu'il ne sait pas dialoguer, c'est que Socrate est finalement obligé de faire des dissertations qui sont très longues, et finalement qui sont des monologues. Et Calliclès, lui, va carrément refuser le dialogue. Mmh. C'est-à-dire qu'à la fin, il dit « Écoute, continue tout seul si ça t'amuse. Mmh. Moi, ça m'intéresse plus et je dirais oui à tout. Mmh. » Et c'est pour ça que Socrate est obligé de finir par le mythe. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire si on reprend le recul par rapport à ça? Ça veut dire que si on est uniquement dans la communication... on devient incapable de dialoguer. Oui, mais si on est incapable de dialoguer, Eh bien, finalement, qu'est-ce qui reste de la vie de la cité ? Est-ce que la vie de la cité va être autre chose qu'un affrontement stérile, vide, et qui mène à sa destruction, finalement ?
Oui, et on peut se demander si on n'est pas dans cette forme, si une forme de violence dans laquelle nous baignons, par la communication, n'est pas en rapport avec ça. C'est-à-dire, finalement, c'est celui qui a les moyens les plus forts, de crier le plus fort, de faire entendre sa voix, qui aura le dernier mot, quoi. Et donc, souvent, on se plaint de la violence de notre société, mais derrière, est-ce que, justement, je reprends ce que tu dis, Nicolas, ça traduit pas un manque d'assises ? Et d'assises, si on prend les termes mêmes qui ont été utilisés par Auguste Comte et par Tonatius et Sandoval, et par tous ceux qui étudient Platon, c'est-à-dire c'est une assise d'ordre spirituel, hein, d'accord ? Alors, voilà, on espère qu'avec ces petits éclaircissements, nous avons donné aux auditeurs envie d'en savoir plus sur ce dialogue, le Gorgias, et qui disait, comme disait Anne, qui est un dialogue éminemment poignant, qui nous renvoie à plein d'actualités, de problèmes de notre société. Et merci Antoine Honora à la technique. Nous nous revoyons la semaine prochaine pour la suite des Neveux de René, Les Chemins de Pensée.